Monique Scar, je suis très heureux de vous rencontrer pour parler avec vous de votre œuvre de peinture, de ce type de peinture que vous réalisez. Et j'aimerais d'emblée que vous nous définissiez ce qu'est la peinture telle que vous la pratiquez. Est-ce qu'on peut dire que c'est une peinture naïve ou est-ce qu'il y a autre chose ?
C'est un peu... Non, ça ne peut pas dire que ce soit une peinture naïve, véritablement. Je dirais que quand j'ai peint au début, je balbutiais, c'était pas fameux. Et par la gaucherie, on m'a cataloguée naïve. Or, à mon âge, on n'est plus naïf. Et je dirais qu'on m'a cataloguée maintenant dans l'art plutôt des primitifs modernes parce que ma technique s'est améliorée. Et les idées, bon, sont-elles naïves? Je ne pense pas.
Alors la technique, on va en dire quelques mots. En quoi est-ce que votre technique a évolué? Racontez-nous un peu par quel stade vous êtes passé.
J'ai d'emblée adoré l'huile, la peinture à l'huile. Et en fait, maintenant, je pratique des glacis. À savoir que Van Eyck, par exemple, travaillait avec 7 couches de glacis qui donnaient une transparence fabuleuse. Moi, j'utilise 1 ou 2 glacis. Et je trouve que la peinture à l'huile a quelque chose de velouté en comparaison de l'acrylique.
Alors là, c'est pour la technique. Alors pour l'inspiration, quelles sont les sources d'inspiration qui vous semblent les plus proches de votre état d'esprit, de votre envie de créer ?
J'adore l'humour. Et chaque fois que je m'endors, chaque nuit, avant de m'endormir, je pense, je me dis, qu'est-ce qui m'a fait rire aujourd'hui ? J'ai besoin de sourire, de rire, et j'essaye de communiquer ça dans certains de mes tableaux. Je ne réussis pas chaque fois, mais voilà. Et la bouche de quelqu'un, ou les joues rebondies d'un autre, il y a des tas de choses, ça bouge dans ma tête d'une manière... terriblement, même je dirais fatigante, mais je n'ai jamais le temps de réaliser tout ce qui me passe par la tête.
Alors, quand vous êtes face à un paysage ou face à un visage, à quel moment et comment se passe le processus par lequel vous vous dites, voilà un environnement dont je pourrais faire une toile, une œuvre, c'est-à-dire me l'approprier?
En fait, je n'aime pas travailler en campagne, avec un chevalet ou n'importe. Non, j'enregistre dans un des tiroirs de ma mémoire le lieu et puis je le transpose un peu à ma manière. Et pour les visages, là, je ne suis pas tellement douée, je ne pourrais pas faire le portrait de quelqu'un, donc j'invente mes personnages.
Alors dans la peinture que je qualifiais de naïve pour essayer de situer dans une école pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas vos tableaux, il y a une certaine forme d'absence ou de reconstruction de la perspective. Est-ce que je me trompe en disant ça? Est-ce que la perspective n'est pas réinventée par les peintres de votre école?
On y arrive par la couleur. À la perspective. Par exemple, un ciel, enfin, c'est par habitude, petit à petit, que j'ai remarqué cela. Quand vous regardez l'horizon est très vague, flou, et puis la couleur, si je peux lui dire, par exemple, du bleu, eh bien, il va être légèrement blanc, et puis il va monter vers le sommet de la toile, et il va devenir de plus en plus profond, de plus en plus. Et je l'obtiens la distance par la couleur.
Ça, c'est les différentes...
Je n'utilise jamais d'ombre sous les personnages. Très peu. Non. Ils ne flottent pas, mais je crois que si je faisais de l'ombre pour chaque chose... non, je ne sens pas la nécessité de le faire.
Et alors, vous modifiez aussi la perspective des objets, non pas la perspective de l'horizon nécessairement, mais la perspective de ce que vous dessinez, de ce que vous peignez. Je vais prendre un exemple, un tableau que nous avons regardé ensemble, qui est un train à travers un parcours campagnard. Alors, décrivez-nous le tableau et puis dites-nous comment le train est si particulier et si original.
Et ce que j'aimais bien, c'est ce contraste entre la dureté du métal, la noirceur de la vapeur au début de la fumée, et puis la fraîcheur de ces hortensias aux environs. J'aimais bien ce contraste et je trouve que c'est plus poétique.
Mais décrivez-nous le tableau d'abord, parce que les hortensias sont où dans le tableau?
Ils sont à gauche et à droite. En fait, il y a le train qui circule dans un demi-cercle. Il n'arrive vers nous. Et vous avez des hortensias à gauche et à droite, avec toute une végétation. Et je n'ai pas voulu mettre de personnage à l'avant-plan parce que je trouvais que c'était inutile. Je pourrais le faire. Peut-être qu'un jour, je trouverai ça utile si c'est nécessaire.
Un personnage à l'avant-plan, ça aurait pu être celui qui regarde le train passer, ça aurait pu être vous.
Par exemple, ça aurait pu être un enfant qui a un hortensia en main et qui dit bonjour à son père, parce qu'il y a un machiniste qui lève la main. Et ça, j'avais eu l'idée d'abord de mettre un petit garçon tenant son petit train, sa petite locomotive dans les mains. Pour faire le contraste aussi de la machine qui est énorme et de ce tout petit enfant. Mais bon, ce n'est pas venu, comme je l'avais dans la tête. Alors je ne le mets pas.
C'est une technique que vous avez déjà utilisée, d'utiliser un objet qui incarne un enfant pour figurer l'enfant. Je me souviens d'un tableau où sur une table de jardin se trouve un petit nounours et une petite poupée. On devine que ce sont en fait les deux enfants de la maisonnée.
Exactement. Oui, vous avez bien retenu.
Alors racontez-nous ce tableau-là.
C'est une maison dans les environs de Liège et c'est un tableau que j'aime beaucoup. La maison est tout à fait exacte. Le jardin, là, j'ai plus ou moins imaginé l'été alors que je l'avais vu en hiver. Et elle représente... La personne, c'est comme un portrait. C'est la personne qui l'a reçue. Son meilleur cadeau, c'était son jardin. Donc, il fallait que le jardin soit agréable, qu'elle puisse y recevoir. Elle adore le thé. Donc, j'ai mis table, chaise, etc., théière, gâteau. Et comme je voulais signifier les petits-enfants, j'y ai mis des jouets. Et des outils de jardinage, etc. Enfin, il est plaisant à regarder.
Est-ce qu'on pourrait dire que ce tableau, où ne figure pas la personne à qui il est destiné, est en fait un portrait de cette personne?
C'est un portrait de cette personne, oui. J'espère qu'elle l'aime, qu'elle l'aime, oui, qu'elle apprécie.
Alors, on va parler d'autres tableaux. J'aimerais qu'on parle des tableaux que vous inspirent des villes. Je sais qu'il y a des villes que vous aimez particulièrement, Dubrovnik, Venise. Est-ce qu'une ville est une source d'inspiration particulièrement difficile à traiter ou au contraire, comme la figuration s'y trouve?
Je n'ose pas... Je fais la réalité. Donc, le palais Falère ou le palais de Camello, c'est l'exactitude à peu près. Et le Camello, je l'aime beaucoup parce que ce sont trois frères arabes qui l'ont construit. Et j'avais même envie de mettre un chameau sur une des gondoles. Enfin, je n'ai pas été jusque-là. Mais je fais plutôt la réalité des bâtiments, mais j'améliore un petit peu le palais Falière. Si on regarde bien, on a apporté un panier avec des poissons et un petit chat qui, évidemment, projette d'en manger un. Il y a la bonne qui ouvre la porte. Il faut regarder ça de près. Ce sont des petits regards, des petites anecdotes, mais qui ne font pas l'ensemble du tableau.
Alors, un autre de vos tableaux que j'aimerais que vous évoquiez, qui est un de vos tableaux les plus récents, ce sont trois dames qui ont chacune un petit chien. Alors, racontez ce qui vous a amené à concevoir ces trois dames.
J'aime beaucoup représenter les femmes, c'est vrai. Soit par des chapeaux, les chapeaux qu'elles portent, les fourrures. Ici, ce sont des fourrures. Ce sont plutôt des femmes qui sont luxueusement habillées. Elles ont un petit chien. Il y a même un petit chien qui porte la même fourrure que sa patronne. Et elles devisent gentiment, mais en étant certaines de l'effet qu'elles produisent. Et on m'a soufflé le titre du tableau, je trouve que nous avons du chien et je trouve ça merveilleux.
Alors, vous m'avez dit avant l'interview qu'il y aurait un tableau ou l'autre que vous aimeriez évoquer. Alors, quels sont ces tableaux? Un à la fois.
Un à la fois, mon Dieu. Voyons. J'aime particulièrement un dessin que je viens de terminer, qui est un énorme arbre qui comporte sur lequel pendent des horloges, et chaque horloge a comporte une heure différente. Et vous avez une file de personnes en bas qui attendent leur tour pour cueillir une de ces horloges, qui représente un moment heureux de leur vie ou un moment, par exemple, où ils ont dit une parole qui n'était malheureuse et voudraient revenir en arrière pour pouvoir réparer ce petit désagrément. C'est un tableau où je trouve l'idée très amusante, mais ce n'est qu'un dessin. Le jour où je le fais, je le ferai peut-être à l'huile. Alors il demandera un peu plus de réflexion encore.
Alors allons un peu plus dans le détail de ce dessin-là. Comment vous est venue cette idée de travailler sur le temps à travers un tableau qui finalement est de l'espace?
Eh bien, c'est très difficile à exprimer. Le temps m'a toujours plu. Par exemple, les parapluies, la neige, la pluie, le soleil un peu moins, parce que j'habite dans un pays où, malgré tout, il ne fait pas beau comme dans le sud de la France. Mais oui, je préfère l'automne parmi les saisons. Enfin, ça, c'est un peu d'intérêt. Mais je dirais que cette idée-là m'est venue un jour.
Ici, les montres, il s'agit non pas du temps des saisons, mais plutôt du temps qui passe.
Oui, exactement, le temps qui passe, qu'on ne peut pas rattraper. Et ici, je donne l'occasion de le rattraper. Voilà, c'est ça qui me plaisait le plus.
Et vous vous souvenez du moment où cette idée vous est venue? Est-ce que c'est une lecture? Est-ce que
non,
c'est...
pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais, 15 jours. Oui, 15 jours, pas plus. C'est venu comme ça. Mais ça bouillonne quelquefois, vous savez, je rêve aussi, je rêve de drôles de choses, et quand je parviens à m'en souvenir, il faut que je le note. Et puis après, je relis ça, je me dis, mais c'est complètement farfelu, non, ça va pas. Ou alors, je parviens alors à en faire quelque chose.
Si on revient à ma première question sur la définition de votre style, est-ce qu'on pourrait dire que la peinture que vous pratiquez est peut-être celle qui permet le plus d'approcher le monde onirique, le monde du rêve, de ces rêves dont on oublie ce qu'ils ont été, mais dont on garde malgré tout une trace?
Oui, ça, c'est très flatteur, là. J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup.
Mais votre technique vous le permettrait. Vous pouvez mettre un dromadaire dans un palais vénitien.
Oui, j'aimerais. C'est ça qui change tout de la photo. Quoique maintenant, la photo devient un art fabuleux. On peut aussi jouer avec le matériel qui est à disposition. Mais c'est vrai, j'aime les choses en dehors de la réalité.
Oui. Alors, le deuxième tableau dont vous auriez voulu parler... vous m'aviez dit que vous aviez deux tableaux dont vous voudriez parler. Il y a peut-être celui avec l'arbre.
L'arbre, je l'ai. Ah oui,
cet arbre aussi.
Il y a le parapluie.
Le parapluie. Les vieilles dames et le parapluie.
C'est-à-dire les prisonniers du temps. Les prisonniers du temps. Et ça, c'est un tableau que j'aime beaucoup parce que c'est un énorme parapluie sous lequel se trouvent à peu près une dizaine de personnes. Et ça, l'idée m'est venue en automne dernier. Il a fait noir en plein jour. Il était à peu près 11h30 midi. Il a fait noir, comme la nuit. Et tout le monde était inquiet. Et puis, une pluie diluvienne s'est abattue en 5 minutes. Il y avait 5 centimètres d'eau dans la rue. Et je trouvais amusant la panique. Et ici, tous ces gens ont eu un air mais catastrophé sous ce parapluie, sauf un petit enfant.
Voilà, on a le contraste entre les adultes ou même des personnes plus âgées qui s'abritent, et puis le petit garçon qui garde sa fantaisie, qui est le plus coloré.
Qui lui met la main pour toucher la pluie qui tombe. Oui, non, c'est ça.
Est-ce qu'on pourrait dire que dans ce tableau-là, le petit garçon symbolise d'une certaine manière la fantaisie de l'artiste aussi?
Ah oui, pourquoi pas, oui. Ah, j'aimerais bien aussi.
Ça vous convient?
Oui, ça
vous convient. Eh bien, alors c'est sur cette fantaisie de l'artiste que nous allons arrêter cette interview. Monique Chard, je vous en remercie. Alors j'invite tous ceux qui ont l'occasion de croiser l'une ou l'autre de vos toiles à s'y arrêter, à les regarder, et puis à entrer dans votre rêve ou à construire le leur. Merci Monique Chard.
Merci aussi à vous.